les panélistes à venir nous rejoindre sur l'estrade et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Monsieur Georges Azaria, qui est professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Azaria, s'il vous plaît. Voilà, installez-vous bien confortablement. Ensuite, voilà, Monsieur Anthony Aymon, qui est analyste à l'Union des consommateurs, le point de vue des consommateurs. Et enfin, Maître Martin Lavallée, qui est directeur pour les licences et les affaires juridiques à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada, la SODRAC. Alors, bonjour, Maître Lavallée. Alors, bonjour à vous trois. Écoutez, vous avez entendu, vous avez eu l'occasion aussi de lire, je pense, à l'avance un petit peu la présentation de M. Roussel. Qu'est-ce que vous auriez à en dire? Qu'est-ce que vous auriez à ajouter sur son analyse un peu de la place du droit, mais surtout des créateurs dans ce marché numérique de la culture? Une vision assez sombre, hein? On s'entend? Les créateurs ne sont pas les gagnants pour l'instant. On peut s'attendre à ce qu'ils soient, en tout cas avec le projet de loi 32, s'il est adopté en deuxième lecture et puis en troisième lecture à Ottawa. Vraiment, ça n'ira pas très, très bien, là.
J'ai bien précisé...
Oui, ça devrait fonctionner.
J'ai bien précisé tout à l'heure que je ne suis pas négatif ou pessimiste. Je suis réaliste et très inquiet.
Et très lucide. Oui.
Et je pense que même s'ils sont minoritaires, ce projet de loi-là va être adopté s'il suit son cours, parce qu'il y a beaucoup de députés néo-démocrates et libéraux qui sont dans des circonscriptions hors Québec en position de fragilité, et ça répond à des lobbies assez importants. Mais par ailleurs, où je dis, une fois que j'ai fait ce constat-là, je voudrais bien qu'on retienne ceci. On est en mode, il ne faut pas se nier la tête, ça existe, c'est un véhicule d'information, d'accès à l'information. Il est indéniable, il est là, et je ne dirais pas qu'il faut faire avec. Il est là. Moi, le premier, je l'utilise, mais je paie quand je télécharge la musique. Mm-hmm. Et donc, il y a des mécanismes de libération de droits pour mettre le matériel disponible ou les œuvres protégées dans des réseaux électroniques. Voilà. Je voudrais que c'est ça qu'on retienne.
Mm-hmm. Qu'on utilise ces outils-là. Maître Azaria.
Oui. Écoutez, en gros, je suis assez d'accord avec ce que Ghislain dit. Je trouve que surtout que le projet de loi C-32 place l'auteur en orbite. Et ça, c'est un problème parce qu'il faut se rappeler que les lois sur le droit d'auteur étaient là d'abord pour placer l'auteur au centre. Et c'était des lois qui devaient favoriser la création en disant, écoutez, le droit d'auteur, ce sera votre salaire. Donc, c'était de reconnaître qu'il y avait à la création une valeur économique. Et ça, ça disparaît. Et oui, c'est inquiétant. Moi, je suis peut-être plus optimiste que lui sur l'adoption de la loi. Je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu électoral à ce point-là, C-32. Et je pense que le projet de loi peut encore changer. Enfin, c'est évidemment ce que je souhaite. Cela dit, je pense aussi, comme Ghislain, que la gestion collective devrait peut-être être un peu plus importante dans l'univers numérique. C'est peut-être quelque chose qui a été un peu sous-estimé. Je pense que toutes les sociétés de gestion collective ont peut-être pris le train un peu en retard en ce qui a trait au numérique. Ils auraient peut-être pu plus rapidement jouer de concert cette guerre-là, parce que c'est un peu une guerre. En fait, c'est certainement une négociation. Il y a eu un problème-là. Mais là, je vais peut-être aller un peu à l'extérieur du contenu de Ghislain pour dire que, de mon observation, évidemment, c'est toujours un peu délicat pour les juristes de dire, de commenter des faits sociologiques parce qu'on regarde essentiellement des contrats, des lois, de la jurisprudence et de parler de tendances sociales alors qu'on est essentiellement dans notre bureau. On peut peut-être dire qu'on est, sur le plan intuitif, un peu dans l'erreur, mais je pense qu'une des choses que j'observe, je ne suis pas le seul à le dire en tout cas parce qu'on lit beaucoup là-dessus, c'est que c'est la valeur même de l'œuvre qui a diminué. Et ce n'est pas juste vrai pour les œuvres faites par des créateurs, c'est vrai aussi pour les œuvres des journalistes, etc. Tout devient information, tout est un fichier. Et un fichier, ça doit faire quoi? Ça doit circuler, et ça doit circuler librement, le plus gratuitement possible, tout ça. Et donc, il y a une perte de la valeur de l'œuvre qui est, à mon avis, au cœur même de la nouvelle économie, ou en tout cas des nouvelles technologies. Et ça, c'est important. Et ça se couple, à mon avis, aussi avec un autre phénomène. Et je ne sais pas s'il est générationnel ou pas, parce que j'entendais ce matin des gens dire que oui, il y a une coupure générationnelle ou il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que tout ce qui est donné sur l'identité, donc donné personnel, tout ce qui est image et tout ce qui est droit d'auteur aussi, essentiellement aujourd'hui, il y a, à mon avis, en tout cas une coupure générationnelle. Je ne sais pas où on peut la placer, mais il y a certainement une catégorie de personnes pour qui ce n'est plus important, ça. Son image, ses renseignements personnels, une œuvre, etc. Et donc, ça doit et ça peut circuler assez librement et certainement gratuitement. Et peut-être la génération plus vieille doit s'adapter à ça, mais à mon avis, il y a quelque chose là qui joue. Et Enfin, comme je vous dis, c'est ce que moi je peux observer. Et sur le droit d'auteur, l'autre peut-être turbulence qui arrive, et là peut-être plus pour parler des œuvres, et je vais dire ça rapidement, mais ce que je constate aussi pour regarder beaucoup des contrats et des pratiques qui se font sur Internet, c'est que... Il y a une nouvelle génération, justement, de créateurs qui vont mettre leurs œuvres sur YouTube, qui vont donner absolument tout leur contenu et oui. qui vont faire en sorte que la notion de rémunération, forcément, existe moins. Eux-mêmes vont mettre au défi nos vieilles façons de voir le droit d'auteur. Puis on avait encore ce matin quelqu'un qui disait, bien, écoutez, moi, je la donne, ma chanson, je la donne, ma musique. Le disque est un produit dérivé. Évidemment, dire ça, il y a 40 ans, c'était impensable. Ça se dit aujourd'hui. Il faut, à mon avis, fonctionner avec ça. Et ces gens-là, ce qui importe pour eux, c'est le droit moral. C'est-à-dire qu'on sache qu'ils sont les auteurs. Qu'ils soient rémunérés, ce n'est plus un enjeu. Mais qu'on sache qui sont les auteurs, ça, c'est important. Et on a ça depuis les licences sur les logiciels libres, où on doit savoir qui est l'auteur, mais on ne veut plus savoir, on ne veut plus rémunérer cet auteur-là. Donc, dévalisez-moi...
Est-ce que ça, c'est un changement fondamental de la notion du droit d'auteur?
Le droit d'auteur est capable...
comme un salaire...
Oui, ça change le fondement même du droit d'auteur, mais curieusement, le droit d'auteur est assez souple pour vivre avec ça. Donc, dévalisez-moi, mais rappelez-vous de mon nom. C'est un peu ça. Donc, l'œuvre peut circuler... Mais n'oubliez pas de dire que je suis l'auteur.
Je vivrai pauvre, mais connu.
Voilà, voilà. Ouais.
Bon, alors on simplifie, bien sûr. Écoutez, monsieur, j'ai envie d'aller à vous, monsieur Lavallée, puisque monsieur Azaria a commencé en disant que les organismes de gestion collective, comme la SODRAC, avaient été peut-être un peu lents à adopter, à réagir, à adopter toute une stratégie commune. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a une maintenant? Est-ce qu'on s'entend du côté des ayants droit que vous représentez pour...
Vous avez donné comme indication de créer une certaine polémique et vous l'avez sûrement fait juste à l'instant, M. Azaria. Les sociétés de gestion sont définitivement, sinon, la solution. Bien sûr, j'ai l'air terriblement biaisé à dire une chose semblable, mais c'est parce qu'on est dans un contexte où, effectivement, la boîte de Pandore est ouverte, on ne peut pas la refermer. Et la gestion individuelle de l'ensemble des droits représentés par les différents ayants droit est d'une difficulté incroyable puisqu'on n'a aucun contrôle sur le média. M. Valliquet l'a répété ce matin. La gestion collective, ce qu'elle permet et ce qu'elle a permis depuis 1997, en fait, depuis l'avènement, le dernier changement majeur à la loi sur le droit d'auteur, a été justement de gérer cet ensemble de droits avec des ententes générales, avec des utilisateurs, des regroupements d'utilisateurs, et de donner les licences nécessaires pour toute forme d'utilisation. Par contre, lorsque vous dites qu'on était un peu lent à monter dans le bateau, si vous me permettez, je voudrais juste très brièvement réagir en même temps au texte de M. Roussel, puis réagir à vos propos en brisant ce que j'appellerais 5 mythes ou 5 confusions. Je vais me limiter à 40 secondes par mythe, là. Mais j'invite définitivement mes illustres collègues et les gens de la salle à venir nous questionner et nous challenger, si vous me permettez, nous mettre au défi par rapport aux idées qui sont amenées de l'avant. Le premier mythe ou la première grande confusion dans le monde, et je pense que c'est un peu à quoi, Ghislain, tu tentais d'alluder, du moins c'est sur quoi que tu veux que les gens se rappellent de ton texte, c'est qu'il y a une confusion énorme entre l'accès libre, toujours dans le monde numérique bien sûr, là, l'accès libre sur toutes les plateformes et l'accès gratuit sur toutes les plateformes. Vous vous en doutez que, de par la nature même du travail qu'une société de gestion fait, c'est-à-dire percevoir de l'argent pour différentes utilisations, je suis en complet désaccord avec M. Azaria qui dit que le salaire suffisant de l'artiste, c'est pas ça que vous avez dit, mais ce que j'ai entendu, que le salaire suffisant de l'artiste était la reconnaissance de soi et non pas du cold hard cash. Ce qui, évidemment, va tout à fait à l'encontre du souhait et de la volonté de la majorité de mes membres. Donc, M. Valliquet, ce matin, nous parlait que les jeunes avaient un éventail très large en termes de goûts musicaux. Mme Christine nous parlait de l'omnivore, si je me rappelle bien. Mais moi, je vous ajouterais un autre qualificatif, c'est la gloutonnerie. J'ai parlé à des jeunes, puis jeunes, hein, on se parlait de ça tantôt, là, si tu es en bas de 35 ans, si tu es 16, si tu es 18, enfin, peu importe. Je parlais à des gens qui téléchargent, puis ils me disent, écoutez, j'ai la collection complète de tel et tel artiste. Puis vraiment, complète, là, on parle échelonné sur des années, sur mon iPod ou iPhone ou whatever, iPad. Et je dis, ouais, OK, l'écoutes-tu? Puis là, ils disent, ah, ben non, j'ai pas le temps, pas le temps. Je dis, mais pourquoi tu l'as téléchargé? Parce que je le peux, parce que je peux le faire. Je peux le faire dans l'anonymat, il n'y a strictement rien qui m'en empêche. Et je le fais principalement parce que c'est gratuit. Je vais être très curieux d'entendre mon collègue à l'Association des consommateurs qui va pouvoir me répondre par rapport à la gratuité. Alors, nous, on s'oppose à l'accès libre, oui, mais à l'accès gratuit, pas nécessairement. Bon, là, je dépasse mon 45 secondes, j'accélère.
Ça, c'est la première confusion.
Oui, c'est ça, mais je vais accélérer pour les quatre autres. Les quatre autres, oui. Tantôt, Ghislain, tu disais, on développe sans cesse des formes d'exploitation innovatrices à l'infini, sans limite. Écoutez, tous les jours, moi, j'entends, il faut se forger une place dans l'économie numérique, il faut prendre le tournant technologique, il faut être innovateur, il faut avoir une pleine compétitivité face aux défis mondiaux qui nous attendent dans l'économie du savoir. Mais c'est là que le bât blesse, surtout au niveau de l'économie, parce qu'il y a comme une économie à trois vitesses qui s'installe actuellement, j'entends. Et c'est pire avec le projet de loi C-32, qui est mon dernier point. Il y a une économie pour les consommateurs, la gratuité, je viens de vous en parler plus ou moins. Il y a une économie pour les fournisseurs de services Internet, pour les manufacturiers d'appareils audio numériques, qui, eux, ont une économie à pleine vitesse. Ça va très, très bien, leurs choses. Se déresponsabilisent complètement de la loi sur le droit d'auteur et de l'auteur en tant que tel, du créateur. Et bien sûr, il y a l'économie du créateur artiste, pour ceux, bien sûr, pour qui la reconnaissance de soi n'est pas suffisante et pour lequel il aimerait bien vivre de son art. Le troisième point, lorsqu'on dit on développe sans cesse des nouvelles formes d'exploitation impossibles à endiguer, écoutez, je vous le donne, notre secret à nous, là, toute exploitation sur Internet se résume à quatre activités. Ça part du téléchargement permanent, à la transmission sur demande, puis la transmission en continu. Pensez-y, là. Tout ce que vous faites, vous allez voir la vidéo que M. Vaïquel nous a présentée tantôt, c'est de la transmission sur demande, sans abonnement. Vous allez sur postedécoute.ca, transmission sur demande sans abonnement. Vous écoutez la radio en simultané, transmission en continu. Vous achetez une œuvre sur iTunes, téléchargement permanent. Alors, une fois qu'on a étiqueté ces trois activités-là, bien là, c'est plus facile de développer des modèles économiques. Donc, le mystère Internet avec les multiples formes d'exploitation peut être terminologisé, étiqueté, si on veut. La dématérialisation du support. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir la perte de valeur. Il y a une banalisation de l'acte. Il y a une banalisation de l'acte de reproduction. Notre gouvernement actuel va parler de taxes sur un iPod, que les gens ne veulent pas ça, le droit de reproduction n'a plus aucune valeur dans le monde de la numérisation, alors que, quant à moi, il n'y a que du droit de reproduction en tant que tel. Mais là, les gens nous disent « mais c'est une reproduction technique ». Et permettez-moi très rapidement de vous lire un extrait ici d'un jugement de la Cour suprême. Si la plante a copié l'œuvre de Bishop, c'est Bishop contre Stevens, c'est parce qu'il était dans son intérêt de le faire. Il est donc normal qu'elle paye pour ses avantages. Une décision plus récente en 2003 de la Commission du droit d'auteur du Canada. Toute nouvelle technique de diffusion et de reproduction qui optimise l'utilisation de ces nouvelles techniques fait en sorte que les titulaires du droit ont droit à une juste part des efficacités qui découlent de cette reproduction. Alors, on a des revenus actuellement. Tu sais, vous dites qu'on est un peu en retard à embarquer dans le bateau. C'est faux, du moins dans la musique. Moi, je pense que la musique était à l'avant-scène. Pourquoi? Parce qu'un fichier musical prend une nanoseconde à télécharger. Ça ne nécessite pas beaucoup de bandes passantes. Actuellement, la folie va commencer sur les films, sur les œuvres audiovisuelles, avec l'augmentation de la bande passante, l'augmentation du nombre de megs qui est disponible en téléchargement par les utilisateurs. Netflix, qui vient d'ouvrir ses services au Canada il y a un mois, est un bon exemple. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, il y a un 30 jours gratuit.
Maître Lavallée, je vais vous demander de peut-être
oui, d'accélérer, je m'excuse. Pardonnez-moi. D'accord.
Et vous avez parlé de la loi, là, je pense.
Oui, bien là, je vais tomber sur la loi C-32, vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais dire vite sur la dématérialisation des supports, c'est que peu importe que ça soit dématérialisé...
Je m'excuse. J'étais sûre de l'avoir fermé.
Vous pouvez prendre votre appel.
Non, je ne prendrai pas mon appel. Arrêtez. Désolée.
Pas de problème. C'est une question d'un public qui écoute.
Vous n'avez pas le droit à notre discussion actuellement.
D'accord. Alors, je voulais simplement amener le droit juridique. Même s'il y a une dématérialisation des supports, ça ne veut pas dire que le droit cesse d'exister. Mais comme on ne peut pas l'expérimenter réellement en le touchant, en ayant une expérience réelle et physique avec, il y a une banalisation du droit qui se fait. Or, ce droit-là, comme vous le disiez, subsiste et a une valeur selon son efficience. Et j'arriverai, je terminerai, je vais sauter mon quatrième point à C32. Merci.
Oui.
Merci de votre patience. À C32, qui nous partageons entièrement, et j'ai été très heureux d'entendre ce matin par la ministre, Mme Saint-Pierre, qui dit qu'elle est, elle partage une, nous partageons son inquiétude face au projet de loi C32. Le projet de loi C32 a été introduit donc par le gouvernement conservateur et a introduit pas moins d'une quarantaine de nouvelles exceptions. Alors, on parle ici de la loi sur le droit d'auteur, qui, pour ceux qui ça vous tente pas de lire la loi en entier, lisez l'article 3, qui est le fondement même de la loi, qui dit qu'un seul un auteur a le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction ou la communication publique de ses œuvres, puis il donne des exemples. Et après ça, vous avez une cinquantaine de pages qui vous dit « sauf dans les cas suivants ». Et là, ça finit plus. Alors, ça fait depuis 15 ans, depuis 97, donc on vit avec toutes ces exceptions-là. Et là, ce que le projet de loi C32 fait actuellement, c'est soit d'éradiquer des revenus existants qui sont en place. Donc, dites-moi pas qu'ils ne fonctionnent pas dans l'environnement numérique, là. Ils fonctionnent depuis l'avènement de l'Internet qui date de 1995, mettons, à peu près, la naissance de l'Internet. Mm-hmm. Puis, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, là. L'autre aspect, c'est que ça ferme la porte à des nouvelles, à des perceptions nouvelles dans le monde numérique. En fait, voilà. La boîte de Pandore...
Alors, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce qu'on comprend, c'est que ça mettrait en jeu, si le projet de loi est accepté, évidemment, adopté, des ententes qui existent actuellement et qui fonctionnent relativement bien entre les ayants droit et les consommateurs.
Entre les sociétés de gestion collective et les groupes d'utilisateurs.
Donc, on reculerait, là, du point de vue toujours des créateurs. Donc là, vous vous rejoignez encore sur plusieurs points. Passons au point de vue des consommateurs. Alors, écoutez, les consommateurs, à première vue, ont beaucoup de choses à gagner avec cet accès plus facile. Mais est-ce que les consommateurs, en fait, sont de mauvais joueurs dans tout ça? Ou est-ce qu'ils acceptent, d'après ce que vous en savez, de payer ce qu'ils consomment comme produit culturel? Est-ce qu'ils seraient prêts à payer des taxes sur les appareils qui sont actuellement détaxés?
C'est par exemple les iPods.
Hein?
Ce ne sont pas des taxes.
Ce ne sont pas des taxes.
C'est un salaire.
Un salaire. Oh, oui, oh, d'accord.
Qui, une fois gagné, ils vont payer des taxes au gouvernement.
C'est ça. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on serait prêt à payer plus?
Alors, ce n'est pas le mauvais joueur, le consommateur, parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y aura plus personne pour justement écouter la musique et puis la consommer. J'aime pas trop la consommation en matière de culture,
ouais,
mais c'est une réalité.
C'est pas le meilleur terme, oui.
C32, non. Le consommateur, malheureusement, il ne va pas faire de gain parce que les exceptions qui y figurent, ce n'est que de la poudre aux yeux. Certaines des exceptions, comme le terme anglais, le time shifting ou enregistrement différé, est soumis à certaines conditions. Vous avez le droit, dorénavant, enfin avec le projet de loi, de pouvoir enregistrer une émission à la télévision. Seulement, une fois que vous l'avez vue, vous devez l'effacer. Qui va venir contrôler chez vous? Vous avez effacé une émission que vous venez d'enregistrer et puis que vous avez envie de revoir plusieurs fois. C'est totalement ridicule.
C'est inapplicable, en fait.
C'est inapplicable et ça ne tient pas compte, en fait, de la réalité et des usages qui sont faits par les consommateurs. Donc, ça rime à rien de ce point de vue-là. D'autres exceptions qui sont le format shifting, où, en fait, on transfère un CD vers un iPod, un iPhone, ce qu'on voudra. Il faut être à la fois propriétaire, donc, du CD, puis également propriétaire du iPod. Oui, mais si mon épouse ou ma fille veut une copie à ce moment-là de la musique, est-ce que non, il faut que je lui rachète un CD puis que je lui achète un iPod, je ne peux pas lui prêter le mien? C'est totalement aberrant de voir des formulations d'exception dans C32 qui, en fait, sont présentées en disant « Vous avez de nouvelles exceptions, vous pouvez faire de nouvelles choses, vous avez de nouveaux droits, mais quand on regarde la liste qui vient en dessous les circonscrire, elles sont inapplicables. Les verrous numériques, ça, c'est un autre énorme problème. On vient nous dire, c'est la solution miracle. Si vous mettez des verrous aux créateurs, tous vos problèmes sont réglés. D'un point de vue de consommateur, je vais juste vous donner un petit exemple. Le dernier film, donc le grand succès Avatar, qui est sorti en disque Blu-ray, il était illisible sur des lecteurs Blu-ray. Parce qu'il y a des verrous numériques qui empêchaient la lecture sur certains types et certains modèles qui étaient pourtant achetés par les consommateurs qui s'étaient procuré un disque dans le commerce. Non, pas lisible. Alors le consommateur, il a le choix entre aller effectivement acheter là, son produit directement, ou il peut aller sur Internet et puis le trouver, puis il n'aura pas de problème à le lire sur son lecteur. Donc les verrous numériques ne sont pas une solution, c'est au contraire un frein. Et ça peut poser des problèmes pour le domaine public, puisqu'il est très facile pour certains de venir mettre à ce moment-là un verrou numérique et on n'a pas le droit de le contourner. La formulation dans C32 est faite de telle façon que même s'il y a des exceptions, on ne peut pas se prévaloir des exceptions pour contourner un verrou numérique. Par exemple, dans le logiciel libre, je dispose d'un système d'exploitation libre que j'utilise. Il y a un verrou numérique qui zone les DVD. Avec les verrous numériques, je n'aurai plus le droit de regarder sur mon ordinateur à système d'exploitation libre les DVD que j'aurais achetés légalement dans le commerce parce que je contourne un dispositif technique. C'est totalement aberrant et ça ne tient pas compte de la réalité. Alors on parle de gratuité, c'est une fausse gratuité parce que je paye mon abonnement à l'accès Internet, je paye mon iPod, donc je donne beaucoup d'argent, mais peut-être pas aux créateurs et aux contenus. Et à ce moment-là, les sociétés comme Apple font de l'argent sur le dos des créateurs. Et là, on est d'accord sur ce point-là. Parce que présenter un iPod avec, je peux mettre, comme ce matin il a été dit par M. Valiquette, des milliers de chansons sur un iPod, quels sont les consommateurs, et là je me pose encore la question, qui vont mettre 10 000 chansons achetées sur iTunes ? J'en cherche encore. Hein. Alors, c'est une fausse représentation à ce moment-là de dire qu'effectivement, on va acheter légalement sur iTunes toute la musique. Et effectivement, Apple fait beaucoup d'argent avec son appareil et pas sur la musique. Maintenant, il y a des problèmes. Pourquoi sur iTunes, je n'ai pas accès aux Beatles ? Et ça, c'est un problème de licence, c'est un problème de droit. Et c'est aussi pour ça que les consommateurs vont sur des plateformes où ils vont trouver tout le contenu disponible parce qu'il n'y a pas de plateforme actuellement qui permette aux consommateurs d'avoir accès à tous les catalogues. Donc là, il y a à repenser les choses. Et repenser les choses, c'est effectivement les sociétés de gestion collective, les licences, et mettre fin aussi à certains problèmes qui sont par exemple la chronologie des médias. Maintenant, les consommateurs, effectivement, quand le film est sorti au cinéma, ils veulent le voir assez rapidement. Est-ce qu'ils vont attendre qu'il soit sorti à la vidéo sur demande, ensuite sur DVD ? Non, il y a aussi cette question de l'accès. Contrôlé également par zone géographique, ça maintenant c'est utopique également. Il a été montré ce matin avec Mad Men. Il est disponible à peine une heure après qu'il soit diffusé. Effectivement, Netflix, les problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas un contenu, un catalogue varié, accessible ici au catalogue. Donc, les consommateurs vont aller sur des plateformes qui leur permettent d'avoir accès directement à ce qu'ils recherchent sur l'Internet. Donc, il faut repenser certains des moyens qui existent. Et les solutions, on les a déjà. Les licences, le guichet unique, la gestion collective, tout ça existe déjà. La rémunération pour copie privée est une façon, effectivement, de rémunérer les créateurs, et à Union des consommateurs, nous défendons la rémunération pour copie privée, parce que c'est un droit de reproduction qui appartient aux titulaires de droit, et sur les supports, effectivement, iPod et iPhone et autres, comme je l'ai dit, à ce moment-là, on les assujettit à cette redevance, parce qu'on fait des reproductions, et ça c'est normal. Ensuite, pour la mise à disposition, il y a des licences qui peuvent être trouvées, et à ce moment-là, le fournisseur d'accès Internet peut être celui qui perçoit la licence pour le compte du consommateur, et ils entrent à ce moment-là dans le portrait global, et ils sont une solution. On va présenter souvent des modèles répressifs comme les avenues possibles ou la solution miracle. C'est faux. Comme les verrous numériques, la solution répressive n'amènera qu'à une seule chose, l'utilisation de réseaux qui existent déjà, qui sont les réseaux cryptés. Les réseaux peer-to-peer cryptés sont déjà présents. Des réseaux privés virtuels. En Suède, suite à une loi qui a été passée pour intégrer une directive européenne, Pirate Bay a mis en place un réseau privé virtuel pour permettre à tous les Suédois de télécharger en toute anonymat. Donc, c'est une course à ce moment-là entre, d'un côté, mettre des verrous, retirer la prise, débrancher le consommateur, ou rémunérer les créateurs avec les consommateurs. Et il vaut mieux se tourner vers cette solution où tout le monde sera gagnant. Les consommateurs auront accès aux œuvres, vont rémunérer les créateurs, et les créateurs vont pouvoir continuer à vivre et être rémunérés.
Voilà, ben c'est la grande question. Monsieur Roussel, oui, réagissez.
Trois commentaires. Je veux commencer par le premier lapsus de la présidente du panel sur le mot « taxe ».
Oui, c'est pas vraiment.
C'est le discours que tiennent beaucoup d'organismes ou même des ministres, et je l'ai entendu de la bouche même de ministres fédéraux, et je ne sais plus si c'est mort du patrimoine ou Clément de Industrie Canada, disant qu'il faut libérer les contenus, etc., et pas question de redevances sur les appareils, il n'est pas question que notre gouvernement crée de nouvelles taxes. Bon. J'ai entendu le même discours quand les cassettes analogiques sont arrivées, les cassettes numériques, les reproducteurs, etc., les magnétoscopes, etc. Et c'était le discours, ce n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, vous payez un abonnement et tout ça, mais absolument rien qui arrive au niveau de l'ayant droit, c'est une redevance, donc une rémunération qui est versée. Ce que vous dites pour les usagers, effectivement, ils ont des droits par le biais d'exception, mais c'est tellement encadré et balisé que ça ne mènera à rien. Mais par contre, pour les consommateurs dits institutionnels, établissements d'enseignement, il y a beaucoup plus de libéralité au niveau des exceptions, même s'il y a certaines réserves ou certaines conditions. Mais pour ces consommateurs institutionnels, le problème il va être facile à contourner. Je me fous de l'exception à l'article 30.31, 30.02, 36, 37, 37. Vous irez lire, c'est amusant. Je vais prendre l'article 29 et 29.1 et je vais demander l'utilisation équitable.
Aux fins d'éducation.
Aux fins
d'éducation. L'éducation, ça peut couvrir toutes sortes de choses. Hein,
oui, c'est ce que vous dites. L'auto-formation, la formation.
Les cours de yoga.
La personnalisation, oui, c'est de la formation, c'est l'éducation. Et ça va être, je ne dis pas que ça va être interprété, mais beaucoup vont prendre prétexte de la notion générale et on va se retrouver devant les tribunaux. Il y aura une autre décision du juge Béni de la Cour suprême en faveur de on sait qui. La solution au niveau des fournisseurs est exacte. La France et la Grande-Bretagne ont adopté des systèmes de pénalisation ou de criminalisation au niveau des fournisseurs. Mais il faut regarder les mécanismes mis en place avant qu'il y ait une poursuite ou une réclamation. Ils vont se dérouler 4 ou 5 années et je ne pense pas que c'est la solution. Et le fournisseur, de toute façon, a simplement qu'à changer d'État. Et donc, la solution est plutôt à l'échelle internationale que nationale. La loi française a apporté un nouveau phénomène. Ceux qui téléchargeaient de façon illégale prennent les documents et aujourd'hui font du streaming et il y a un développement énorme de Facebook où se retrouvent les contenus en France. La loi a créé ce phénomène-là.
Ça revient un peu à ce que M. Valiquette disait ce matin. Si vous n'offrez pas d'alternative légale, les gens vont contourner et vont utiliser des techniques illégales.
Et des bons contenus.
Et des bons contenus, oui. Oui, monsieur, allez-y, monsieur Aymon.
La loi française, effectivement, se concentre uniquement sur un type d'application, le peer-to-peer, et fait fi, et c'est dans le règlement et les décrets d'application, malheureusement. Et à ce niveau-là, tous les consommateurs ont déjà migré pour la plupart sur le streaming, et le streaming, pas uniquement sur Facebook, mais sur des sites qui se situent beaucoup plus en Asie et qui font des millions de dollars avec du contenu à ce niveau-là.
Et là, il n'y a pas de rémunération. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à un système où il y a une rémunération pour les créateurs. En fait, c'est ce que j'ai dit tantôt. On s'est peut-être mal compris. Ce que je pense, c'est que ce qui vient concurrencer ce système-là, c'est le fait qu'il y a une nouvelle génération de créateurs pour qui ce n'est pas important, la rémunération. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose qui est un peu embrouillé, je pense, dans l'imaginaire même des politiciens qui ont à gérer cette loi-là. Mais c'est vrai que le projet de loi tel qu'on l'a est pensé pour le support dur, et le support dur, il disparaît. Et même les sociétés de gestion sont en train de penser non plus en fonction du support dur, mais en fonction d'un support virtuel, en fait, de l'absence de support. Et c'est ça qui, à mon avis, est absolument essentiel.
Oui. Mais, Maître Lavallée?
C'est comme je disais tantôt, cette pensée est déjà introduite dans le fonctionnement même des sociétés de gestion. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça, au-delà de la polémique, je suis tout à fait d'accord que si tu ne donnes pas l'accès, la frustration va grandir en tant que telle. Le message que je voulais passer par rapport à C32 spécifiquement, c'est que la solution du gouvernement actuel, qui n'est pas passée en loi encore, est d'éradiquer le droit. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, OK, on va donner plus d'accès, on va diminuer la durée qu'il y a entre la sortie d'un film et sa sortie en DVD, on va permettre un plus grand exercice de l'exercice collectif, par exemple, ou s'assurer d'une compensation, une rémunération. Écoutez, le mot qui revient toujours à toutes les lèvres est toujours de créer un équilibre. Créons un équilibre, créons un équilibre. Mais moi, je vous soumets humblement que la personne qui a besoin de plus de protection dans le monde numérique, c'est l'artiste. C'est le créateur, c'est celui pour lequel son œuvre, elle lui est entièrement dépossédée la seconde qu'il met sur l'Internet, vu l'absence justement de mesures de protection technologique ou l'absence de loi qui le protège. Actuellement, je le répète, la solution envisagée est surtout une solution de dire, bon, ben, on ne sait pas trop comment solutionner ça, on a entendu à droite et à gauche, donc faisons disparaître le droit, en le mettant dans une exception.
Mm-hmm. Et mais pour l'instant, on semble surtout vouloir plaire aux fournisseurs de services et à l'industrie,
oui,
qui sont protégés.
Et je dirais, on parlait de taxes tantôt, il y a une subvention énorme derrière ce projet de loi-là, au milieu de l'éducation, qui indirectement est très, très subventionnée, on pourrait le dire, par ce projet de loi-là. C'est, Ghislain pourrait nous le dire, c'est quand même plusieurs millions de dollars qui auront pu à payer peut-être avec les licences qui sont déjà conclues.
Il y a effectivement, c'est une position qu'a pris le gouvernement du Québec par rapport au... Il y a aussi dans ce cas-là une dualité au Canada.
Il y a
une société distincte dans le domaine du droit d'auteur, il faut le noter. J'ai participé à des forums et des fois à me faire dresser les cheveux sur la tête avec mes collègues anglophones à Toronto ou à Vancouver ou même à Calgary. À un moment donné, on n'était pas sur la même planète. C'était des exceptions tout azimut et trucs. Il y a vraiment une dualité ou deux solitudes à ce chapitre. Il y a effectivement le Québec, ça remonte des années 83-84, et ça a été soutenu autant par les gouvernements péquistes que libérales, d'adopter une orientation qui n'est pas d'exception au droit d'auteur, mais des licences négociées avec les ayants droit. Voilà. Et il existe des licences pour les réseaux dorénavant primaires, secondaires,
collégiales,
universitaires, soit sur la photocopie, soit pour la reproduction d'enregistrements sonores, soit sur l'utilisation des œuvres dramatiques, la reproduction des œuvres dramatiques, la représentation en scène. Ça existe aussi dans d'autres... Le SOCAN, au niveau de la diffusion de la musique, pour les cas où ce n'est pas visé. Et simplement, pour faire référer à certaines licences qui sont en voie de renouvellement avec deux de ces organismes-là, sont en jeu 6 millions de dollars, je crois. Et si C32 est adopté, ces ententes-là, je pense...
Deviennent caduques?
Sont susceptibles de devenir caduques en bonne partie si le gouvernement d'éducation dit, moi, dorénavant, ou le Conseil du Trésor, j'ai besoin d'argent, je suis en deux mesures de compression budgétaire, il dit, moi, je vais appliquer la loi telle qu'elle, elle me favorise, donc je veux réévaluer les ententes. Mm-hmm. Ou des représentations, comme la Fédération, la Commission scolaire ou des représentants pour interpréter ces ententes-là et pourquoi. Moi, pourquoi je négocierais? Parce que Copybeck, par exemple, dans le domaine de la photocopie, vient de proposer aux établissements d'enseignement une licence de reproduction numérique qui est arrivée au niveau des commissions scolaires. Les commissions scolaires s'adressent au ministère. Est-ce qu'on va faire une entente avec Copybeck? Est-ce que le ministère a du fric? Le ministère dit, bon, C32 vient d'être déposé. C32 prévoit pour l'établissement d'enseignement la reproduction numérique. Donc, wait and see, et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et là, on est dans les nouvelles utilisations. C32 prévoit ces licences reproduction numérique. Oui, vous devez le faire, mais dans le cadre d'ententes déjà existantes sur la reprographie, la reproduction, les photocopieurs, et payer le même tantième. Alors qu'il n'y a même pas de tantième, on négocie des ententes, des lump sum pour des réseaux selon les clientèles, un per capita par clientèle. Donc, la mise en œuvre de C32, si elle était adoptée, a des effets important au niveau de ces ententes-là et de l'ensemble. Je suis sûr que si on regarde l'ensemble des redevances qui sont versées, ça doit être pas loin de 8 millions, je crois, pour l'ensemble des ententes.
Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont posés par l'adoption possible, mais pas certaine, de ce projet de loi C32 par le gouvernement fédéral. Mais au-delà du projet de loi, je pense que la grande question est là. Je vous inviterai, je pense qu'on va passer aux questions